Il est en France des lieux où la conscience nationale parle plus haut qu'ailleurs. D'après une sorte de décret de la nature et de l'histoire, Strasbourg est un de ces lieux-là pour deux motifs qui s'appellent l'Alsace et le Rhin. C'est pourquoi le destin de la ville symbolisait le sort de la patrie, de la ville arrachée en 1871, recouvrée en 1918, perdue en 1940. Alors, en 1944, il était du plus capital intérêt national que la ville fut libérée le plus tôt et dans les meilleures conditions possibles. Ce fut fait le 23 novembre et d'une telle manière que l'épisode revêtit un éclat exceptionnel. À Strasbourg, on vit se réaliser un plan d'après lequel une grande unité française, d'accord avec nos alliés, axée de loin sur la direction voulue, avait été mise à même de saisir l'occasion à tout moment et par ses propres moyens. Cela fut fait comme il était prévu. La division choisie était une division blindée, d'abord parce que ce type répondait à l'entreprise, et ensuite parce qu'il fallait, au point de vue de l'art et de l'histoire, qu'un succès retentissant remporté par une de nos formations cuirassées vint compenser en quelque mesure le désastre essuyé naguère, faute que nous en ayons eu de semblables et employés comme il fallait. Et puis le choix s'était porté sur une division dont le noyau était issu de l'élite de la France libre, d'une division complétée par des éléments venus de la métropole en Afrique du Nord et qui brûlait de s'illustrer à leur tour, d'une division qui venait de libérer Paris et dont le chef avait au plus haut degré possible le sens du combat, l'audace et l'autorité, grâce à quoi, parfois, resplendit une de ces prouesses qui font la fierté des armées. On sait ce que fut celle-là. On sait que le 22 novembre, la 2e division blindée, combattant et manœuvrant à travers les Vosges, se saisit des débouchés de la plaine à Saverne et à Phalsbourg. On sait comment, le 23 novembre, menant sur Strasbourg une charge de 35 kilomètres, elle y pénétra par cinq côtés et rendit la ville à la France en faisant 15 000 prisonniers. Mais ce qui donnait ce relief à l'action d'éclat du général Leclerc et de ses troupes, ce n'était pas seulement la réussite proprement militaire, c'était aussi la preuve apportée à la nation, terriblement déchirée et meurtrie, qu'en fin de compte, malgré tous les troubles, ses soldats lui étaient fidèles. La libération de Strasbourg, comme en même temps la bataille menée en Alsace par la première armée et les engagements sur la côte atlantique, comme plus tôt les combats victorieux de nos forces en Tunisie, puis en Italie, et comme auparavant les exploits des Français libres en Érythrée, en Libye, au Fezzan, faisaient voir à la France que sa force reparaissait et qu'elle reparaissait pour la servir et ne servir qu'elle seule. Ainsi, des doutes pesants se trouvaient magnifiquement dissipés. Résistante et combattante au fond d'elle-même, la France, en effet, malgré un désastre momentané et les abandons publics qui suivirent, la France, avec enthousiasme, se retrouvait avec ses soldats pour avoir vécu de longs siècles et de grands drames. Elle sait que son armée doit être la sienne et que d'ailleurs, hors de cela, il n'y a pas d'armée qui tienne. La loi de grandeur et de servitude se réalisait à Strasbourg, malgré les vicissitudes des événements, les tendances diverses qui avaient été précédemment ressenties dans les rangs, et même les oppositions d'hier entre factions militaires et les souhaits, parfois les regrets, voire les chagrins des individus. La leçon est éternelle. Elle s'impose aujourd'hui plus que jamais. Car dans un monde où tout est en jeu, voici la France menacée de nouveau dans son corps et dans son âme. La voici à proximité presque immédiate d'un bloc totalitaire, ambitieux de dominer et brandissant un terrible armement. La voici essentielle et à ce point que si elle demeure droite et ferme, le monde libre peut garder son espoir et sa cohésion. Mais que si par malheur elle vient à fléchir, c'en est fait de l'Europe et bientôt de la liberté du monde. En aucun temps, la France n'a eu le droit et le devoir, autant qu'aujourd'hui, d'être elle-même. En aucun temps, elle n'a eu à ce point besoin de ses soldats. Il est vrai que les sirènes de la décadence l'appellent de ci, de là, à renoncer à être la France. Si rite même qu'elle y prétende, et l'engage à s'en remettre au but et à la protection des autres. Ainsi ferait-elle l'économie, non de ses hommes et de son argent, ni le cas échéant de ses ruines et de ses sacrifices, mais de ses responsabilités, c'est-à-dire de son indépendance. Il va de soi qu'une telle conception ne vaut rien pour notre peuple, qui reprend conscience de ce qu'il est et qui accroît jour après jour ses moyens et son rayonnement. Certes, l'Alliance Atlantique est absolument nécessaire. Certes, il serait bien utile que les grandes puissances occidentales concertent en permanence leur politique sur tous les points du monde. Certes, il est indispensable qu'elles préparent ensemble l'action de leurs forces et qu'éventuellement elles conjuguent leurs efforts de guerre. Mais dans ce concert, cette préparation, cette conjugaison, la France doit garder sa volonté, sa figure et son armée, elle. Cela exige, bien entendu, que notre puissance militaire soit mise à même d'agir dans les conditions qui sont celles de notre temps. C'est dire qu'il lui faut un armement atomique, à moins qu'il n'y en ait plus nulle part. Car si effrayants que soient ces moyens de destruction gigantesques, et justement parce qu'ils sont effrayants, un grand État qui n'en possède pas tandis que les autres en possèdent ne dispose pas de son destin. Nous doter de projectiles nucléaires stratégiques et des engins pour les lancer, c'est le premier but de notre défense et nous marchons pour l'atteindre. D'autre part, comme l'éloignement relatif des continents ne cesse pas de se réduire et que tout danger, tout conflit ou que ce soit intéresse une puissance mondiale et par conséquent la France. Et puis au surplus, comme dans les conditions adaptées à notre siècle, la France est comme toujours présente et active outre-mer, il résulte de tout cela que sa sécurité, l'aide qu'elle doit à ses alliés, le concours qu'elle s'est engagée à fournir à ses associés, peuvent être mis en cause en n'importe quelle région du globe. Une force d'intervention terrestre, navale, aérienne, faite pour agir à tout moment et n'importe où, lui est donc nécessaire. Et nous commençons à la réaliser. Enfin, tout en rendant capable de porter nos armes au loin, s'il le faut, nous devons sur terre, sur mer et dans les airs, assumer Notre défense immédiate, c'est là le troisième élément constitutif de notre puissance. Il y faut les forces voulues, comportant des noyaux actifs solides, complétés par la mobilisation, préparés à utiliser toutes les possibilités du terrain et de la population pour combattre l'envahisseur. Voilà au total ce que doit être la défense nationale française et voilà ce qu'elle devient. Une pareille transformation de notre corps militaire est rendue possible à mesure par le changement qui s'accomplit outre-mer, car tout se tient. Le mouvement immense qui emporte le monde et aussi le génie éternel de la France nous conduisent à consentir à notre tour à ce que soient convertis en association les liens de colonisation naguère noués avec main peuple du dehors. Cela fut entrepris et réussi tout juste à temps pour 11 États africains et pour la République malgache. Mais tandis que nous y procédions, une rébellion acharnée était engagé en Algérie depuis des années, favorisé par le sentiment de la masse des populations lié à la passion du monde musulman, aidé depuis les États voisins et soutenu par toutes sortes de concours dans le complexe international. En effet, la présence d'une nombreuse communauté européenne en Algérie, la forme d'administration qui y était établie et l'attachement porté à ce pays par la métropole, à ce pays qui était lié à nous depuis 130 ans, enfin, l'instabilité et l'incertitude du régime d'antan avaient empêché la politique française de discerner et de vouloir, au moment où il aurait fallu, l'évolution nécessaire. Et en outre, il faut le dire franchement, dans les cadres de notre armée engagée partout en Algérie, certains éléments, c'était, quant au but de leur combat, former une conception qui était limitée au terrain où ils se trouvaient et à leurs propres souhaits. Ce problème immense et qui était dans cette voie sans issue, pour le résoudre, de telle sorte qu'il n'en résulta pas à l'intérieur de nous-mêmes des déchirements définitifs et désastreux, il fallait que fût fixée la volonté de la France. Cela fut fait. Croit-on que cet été facile? L'autodétermination, autrement dit, la libre disposition des Algériens par eux-mêmes, aboutissant forcément à un État souverain, des garanties pour les Algériens de souche européenne et la coopération organisée entre l'Algérie et la France, ce fut, c'est, la solution arrêtée par le chef de l'État, adoptée par le gouvernement, approuvée par le Parlement et ratifiée par le peuple français. Cependant, pour aboutir dans des conditions conformes au dessein, à la dignité et à l'intérêt de la France, il fallait que jamais nos armes ne fussent mises en échec. Il fallait que toujours et partout elles maîtrisent le terrain. Les ordres n'ont pas manqué d'être donnés, ni les moyens d'être fournis constamment. Et en conséquence, et en même temps, pour susciter parmi les Algériens, et il était grand temps, des sentiments qui puissent servir à la future coopération, tout fut fait pour que notre armée protégeât la population, l'aidât à vivre et à se développer et multiplia avec elle les contacts de bon aloi, qu'il se fût agi de combat ou de pacification, je dis aujourd'hui et bien haut qu'au total en Algérie, notre armée a rempli sa tâche avec courage et avec honneur, et que notre avenir sur place, à l'intérieur de nous-mêmes et vis-à-vis de l'univers, en aura directement dépendu. Certes, on peut s'expliquer, et moi-même, tout le premier, que dans l'esprit et dans le cœur de certains soldats, ce soit fait jour d'autres souhaits et même l'illusion qu'à force de le vouloir, on pourrait faire en sorte dans le domaine ethnique et psychologique que les choses soient ce que l'on désire et le contraire de ce qu'elles sont. Mais, dès lors que l'État et la nation ont choisi leur chemin, le devoir militaire est fixé une fois pour toutes. Hors de ces règles, il ne peut y avoir que des soldats perdus. En lui, au contraire, le peuple trouve un exemple et un recours. Aujourd'hui, à Strasbourg, en ce jour anniversaire d'un des plus beaux faits d'armes de notre histoire, et dans un temps grave et dangereux, j'affirme la confiance de la France en elle-même et en son armée. Vive la République ! Vive la France ! Et des engins pour les lancer, c'est le premier but de notre défense. Et nous marchons pour l'atteindre. D'autre part, comme l'éloignement relatif des continents ne cesse pas de se réduire, et que tout danger, tout conflit ou que ce soit intéresse une puissance mondiale et par conséquent la France, et puis au surplus, comme dans les conditions adaptées à notre siècle. La France est comme toujours présente et active outre-mer. Il résulte de tout cela que sa sécurité, l'aide qu'elle doit à ses alliés, le concours qu'elle s'est engagée à fournir à ses associés, peuvent être mis en cause en n'importe quelle région du globe. Une force d'intervention terrestre, navale, aérienne, faite pour agir à tout moment et n'importe où, lui est donc nécessaire. Et nous commençons à la réaliser. Enfin, tout en nous rendant capables de porter nos armes au loin, s'il le faut, nous devons, sur terre, sur mer et dans les airs, assumer notre défense immédiate. C'est là le troisième élément constitutif de notre puissance. Il y faut les forces voulues, comportant des noyaux actifs solides, complétés par la mobilisation, préparés à utiliser toutes les possibilités du terrain et de la population pour combattre l'envahisseur. Voilà au total ce que doit être la défense nationale française et voilà ce qu'elle devient. Une pareille transformation de notre corps militaire est rendue possible à mesure par le changement qui s'accomplit outre-mer, car tout se tient. Le mouvement immense qui emporte le monde et aussi le génie éternel de la France nous conduisent à consentir à notre tour à ce que soient convertis en association les liens de colonisation naguère noués avec main peuple du dehors. Cela, cela fut entrepris et réussi tout juste à temps pour 11 États africains et pour la République malgache. Mais tandis que nous y procédions, une rébellion acharnée était engagée en Algérie depuis des années, favorisée par le sentiment de la masse des populations liées à la passion du monde musulman, aidé depuis les États voisins et soutenu par toutes sortes de concours dans le complexe international. En effet, la présence d'une nombreuse communauté européenne en Algérie, la forme d'administration qui y était établie, et l'attachement porté à ce pays par la métropole, à ce pays qui était lié à nous depuis 130 ans. Enfin, l'instabilité et l'incertitude du régime d'antan avaient empêché la politique française de discerner et de vouloir, au moment où il aurait fallu, l'évolution nécessaire. Et en outre, il faut le dire franchement, dans les cadres de notre armée engagée partout en Algérie, certains éléments s'étaient, quant au but de leur combat, formé une conception qui était limitée au terrain où ils se trouvaient et à leurs propres souhaits. Ce problème immense et qui était dans cette voie sans issue, pour le résoudre de telle sorte qu'il n'en résulta pas à l'intérieur de nous-mêmes des déchirements définitifs et désastreux, il fallait que fût fixée la volonté de la France. Cela fut fait. Croit-on que cet été facile, l'autodétermination, autrement dit la libre disposition des Algériens par eux-mêmes, aboutissant forcément à un État souverain, des garanties pour les Algériens de souche européenne, et la coopération organisée entre l'Algérie et la France, ce fut, c'est la solution arrêtée par le chef de l'État, adoptée par le gouvernement, approuvée par le Parlement et ratifiée par le peuple français. Cependant, pour aboutir dans des conditions conformes au dessein, à la dignité et à l'intérêt de la France, il fallait que jamais nos armes ne fussent mises en échec. Il fallait que toujours et partout elles maîtrisent le terrain. Les ordres n'ont pas manqué d'être donnés, ni les moyens d'être fournis constamment. Et en conséquence, et en même temps, pour susciter parmi les Algériens, et il était grand temps, des sentiments qui puissent servir à la future coopération, tout fut fait pour que notre armée protégeât la population, l'aidât à vivre et à se développer et multipliât avec elle les contacts de bon aloi, qu'il se fût agi de combat ou de pacification, je dis aujourd'hui et bien haut qu'au total en Algérie, notre armée a rempli sa tâche avec courage et avec honneur, et que notre avenir sur place, à l'intérieur de nous-mêmes et vis-à-vis de l'univers, en aura directement dépendu. Certes, on peut s'expliquer, et moi-même tout le premier, que dans l'esprit et dans le cœur de certains soldats, ce soit fait jour d'autres souhaits et même l'illusion qu'à force de le vouloir, on pourrait faire en sorte dans le domaine ethnique et psychologique que les choses soient ce que l'on désire et le contraire de ce qu'elles sont. Mais dès lors que l'État et la nation ont choisi leur chemin, le devoir militaire est fixé une fois pour toutes. Hors de ces règles, il ne peut y avoir que des soldats perdus. En lui, au contraire, le peuple trouve un exemple et un recours. Aujourd'hui, à Strasbourg, en ce jour anniversaire d'un des plus beaux faits d'armes de notre histoire. Et dans un temps grave et dangereux, j'affirme la confiance de la France en elle-même et en son armée. Vive la République ! Vive la France !